Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, dans les fous du volant, on aime bien avoir des invités, parfois très connus. Bernard Asset, c'est quelqu'un qui, dans le monde de la Formule 1, est connu. Ceux qui sont un petit peu en retrait, par contre, je suis désolé Bernard, c'est peut-être pas très très gentil de dire ça. Votre nom dira peut-être rien. Vous faites partie des grands photographes français de la Formule 1. Ça doit être des copains, j'imagine. Ou alors, ça se trouve, vous les appréciez pas du tout. Je vais faire un gros impair, mais je sais pas, des Jean-François Galeron, des François Favence.
C'est des copains, c'est absolument voilà. Des amis, certains, et des copains, et on s'entend tous très bien dans l'ensemble entre photographes.
Alors, on est particulièrement heureux de vous recevoir parce que les photographes ont forcément un regard un petit peu particulier sur la discipline qu'est la Formule 1. Et vous avez un parcours quand même qui remonte pas hier. Stéphane, tu nous présentes Bernard Asset ?
1979, c'est votre première saison complète en Formule 1. Un univers qui est extraordinaire parce que c'était encore l'époque où les photographes, les journalistes étaient copains avec les pilotes, avec les patrons d'équipe. Maintenant, c'est beaucoup plus cloisonné. Faites-nous encore un petit peu rêver. En 79, qu'est-ce qui était possible qui ne l'est plus aujourd'hui?
Comment on faisait pour rentrer dans le paddock en 79?
Déjà, moi, en ce qui me concerne, on rentrait assez facilement, mais en ce qui me concerne, j'avais pas de soucis. J'étais accrédité par le magazine pour lequel je commençais à travailler, puisque c'était en plus le début du magazine, le Grand Prix International. Il était créé par Michel Hommel. Et donc, j'étais accrédité comme un vrai pro, quoi. Donc, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et effectivement, on rentrait partout. On était très peu nombreux, il faut reconnaître, le clan des Français était très réduit à l'époque. Et on rentrait dans les garages, on déjeunait avec les écuries, avec les pilotes, chez Renault ou chez Gitane, enfin Ligier, qui nous invitait quelquefois, ou chez Elf par la suite. Le soir, on se retrouvait souvent dans des restos avec des pilotes, entre journalistes aussi. Et voilà, c'était très convivial et voilà, ça a beaucoup changé, c'est sûr.
C'était une époque où il y avait, on se souvient de cette photo, je crois, 7 pilotes français engagés en Formule 1. C'était une époque dorée.
Ouais, c'était une époque dorée. C'était les résultats de cette fameuse filière ELF créée par François Guittert. Avant ça, il y avait eu les écoles de pilotage pour former des pilotes, donc la fameuse école Winfield avec les volants ELF et au Paul Ricard et à Magny-Cours. Bon, précédemment ça s'appelait le volant Shell d'ailleurs, et donc tous les pilotes français que j'ai connu à ma première saison, donc en 79, les fameux 7 mercenaires, ils sortaient tous, pratiquement pas tous, mais de cette filière.
C'était quoi les rapports que les photographes et que les journalistes d'ailleurs avaient à ce moment-là avec les pilotes? Maintenant, il y a forcément un petit peu de distance. Il y a le filtre des attachés de presse. Ouais. Quand il y en a qu'une seule, déjà, c'est bien.
je pense en particulier aux photographes personnels des pilotes. Quand est-ce qu'il y en a eu? Il y a un garçon comme Jackie Seward qui a vraiment professionnalisé l'image du pilote. Il avait peut-être sa façon de communiquer à travers aussi un photographe personnel. Est-ce que c'était encore un petit peu freestyle, je vais dire, où il y avait déjà ces photographes-là attitrés pour un pilote?
Moi, je n'ai pas trop le souvenir qu'il y avait des pilotes, des photographes, je veux dire, attitrés à des pilotes. Moi, je ne l'étais pas, en tout cas. Mon collègue Jean-François Galeron, je sais qu'il travaillait lui un petit peu pour Rubens Barrichello, un peu plus tard.
Ouais. Mais je pense à Bernard Bacalian, si je ne me trompe pas.
Alors Bernard Bacalian, il était assez proche d'Alain Prost, il est toujours d'ailleurs. Et je pense qu'il lui faisait quelques photos, mais je pense qu'il n'y avait pas d'accord vraiment particulier. je n'ai pas le souvenir de tellement de photographes qui est vraiment attitrés à des pilotes. Autant maintenant, de nos jours, il y a des photographes attitrés aux équipes, mais assez peu aux pilotes en particulier, en tout cas, où souvent ça ne se sait pas en fait. Ça reste assez discret. Ou... En tout cas, moi, ce qui me concerne, bon, j'ai quelquefois fourni des photos pour Jean Alési, mais c'était amical et ça faisait pas partie d'un contrat.
C'est quoi pour vous les grandes étapes de l'évolution de la Formule 1? Comment ça a évolué dans votre milieu à vous des photographes? C'est assez particulier parce qu'il faut aller en bord de piste, faut parfois s'exposer aussi un petit peu au danger.
Oui, alors bon, il y a eu pas mal de changements. Côté piste, justement, pour parler de la piste, c'est ce qui a le moins changé, puisqu'on a toujours des accès relativement faciles derrière le rail. Bon, là, ce qui a changé, c'est que maintenant, souvent, en plus, il y a des grillages qui n'existaient pas à l'époque. Et bon, quelquefois, les organisateurs de Grand Prix nous organisent des fenêtres dans les grillages qui sont souvent trop petites, malheureusement, pour qu'on puisse travailler d'une manière confortable. Mais par contre, on continue à aller vraiment presque partout, à part quelques zones rouges. À chaque fois qu'il y a un accident grave, évidemment, la zone devient rouge, c'est-à-dire interdite aux photographes. Et surtout, on voit surtout ça aux 24 heures du Mans, notamment.
Ah oui, bah on se souvient, on a tous en tête hein, cette image de la sortie d'Alan McNish
Voilà.
qui se retrouve avec la voiture qui est quasiment dans la voie où il y a les commissaires et où il y a les photographes d'ailleurs.
Sur cette image, on voit d'ailleurs un photographe qui n'a rien vu, rien entendu parce qu'il a les boules quies.
Ouais.
Il marche tranquillement alors qu'il y a une voiture qui est en train de voler au-dessus de lui. Non, c'est terrible. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'un accident à n'importe quel endroit. Donc, pour en revenir au changement, c'est ce qui a le moins changé, donc l'accès au bord de la piste. Ce qui a beaucoup changé, par contre, c'est les garages où en 79, je rentrais librement dans tous les garages. Je faisais des photos des moteurs ouverts, des boîtes de vitesse démontées, des mécaniciens qui travaillaient. En général, personne ne me disait rien ou c'était vraiment exceptionnel. Et ça, petit à petit, à la fin des années 80 et au début des années 90, ça a disparu. On a commencé à avoir des garages habillés aux couleurs des sponsors, c'est-à-dire avec c'était plus des murs en béton ou en parpaing, c'était vraiment des parois de plus en plus travaillées et souvent assez esthétiques d'ailleurs. Et avec ensuite des éclairages, des écrans tactiles, etc. Tout ça intégré dans le garage. Donc ça a beaucoup changé. Jusqu'au début des années 2000, on pouvait, en faisant une demande particulière à un attaché de presse, rentrer un petit peu à l'avant du garage sans aller à l'arrière, parce que pareil, pour des raisons de confidentialité. Et puis petit à petit, ça s'est resserré et ça a été complètement supprimé, parce qu'évidemment, il y a eu des abus. Parce que ça, c'est un peu méconnu, mais il y a beaucoup de photographes qui travaillent pour une écurie et qui font de l'espionnage. Ils sont chargés de photographier des détails de la voiture concurrente. Donc ça se sait pas trop, mais les patrons d'écurie, ils le savent. Donc du coup, on nous a petit à petit complètement interdit les garages. Donc, uniquement les photographes travaillant pour une équipe ou pour un sponsor
Ont le droit de
ont
pénétrer dans les
là,
locaux.
au garage.
Ça relève vraiment d'une parano. Avant, globalement, c'était Ferrari contre des écuries indépendantes avec un moteur Ford, point, et ça tournait comme ça. Et puis, on a vu arriver Honda, Renault, etc. Est-ce que c'est à l'arrivée de Honda, le combo Honda-McLaren, où tout s'est un petit peu dégradé? On sait que Randonis aussi était assez jaloux de ses secrets, un petit peu parano, quand vous dites aussi que à l'intérieur des stands, ils ont commencé à repeindre aux couleurs. C'est lui aussi qui a peint la coque même des voitures du carbone. Quand on enlevait la carrosserie, eh bien, on n'enlevait pas sponsor puisqu'on le voyait derrière. Tout ça, c'était très très pensé. Mais on a l'impression que là, il y a eu un coup d'accélérateur quand même dans ces années-là.
Effectivement, et vous parlez de Rob Denis, je crois qu'il a été le premier un jour à faire peindre le sol d'un garage en gris, en peinture, alors que habituellement les garages étaient toujours bruts de béton. Et ça avait surpris tout le monde, les organisateurs, de voir un garage gris, nickel, comme le sol d'un hôpital, quoi.
Moi, oui. Ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autocensure ou de retenue? lorsqu'on voit par exemple une voiture accidentée, les photos, on ne les voit pas trop circuler sur des agences un petit peu à laquelle on accès, les journaux, les différents médias, parce qu'on révèle aussi des secrets. Est-ce qu'il y a des photos que vous savez qu'il ne faut pas publier parce qu'elles ne vont pas plaire et que vous risquez de vous mettre en marge du paddock?
Effectivement, quand il y a un accident, que la voiture est soulevée par une grue et qu'on découvre le fond plat de la monoplace, souvent on voit les mécaniciens qui se précipitent pour mettre une bâche, mais quand ça se passe à l'autre bout du circuit, bah, ils ne sont pas là, et donc souvent les photographes en profitent. Je pense que maintenant, c'est peut-être un peu moins pire qu'il y a une quinzaine d'années, où là vraiment on pouvait se faire repérer, se faire mal voir parce qu'on avait publié telle ou telle photo. Je pense que du coup maintenant ça c'est peut-être un peu passé, et puis les voitures sont bien protégées de manière à ce qu'on ne voit pas trop les détails. Ce qui n'empêche qu'on voit bien à la télévision sur la grille de départ
C'est ce que j'allais dire. C'est ce que
le
j'allais
barrage
dire.
des mécaniciens
Oui, tout
qui
à fait.
tire à bulle.
C'est les caméras aujourd'hui qui ont
Oui,
pris quelque part un petit peu
c'est ça.
le relais de ces indiscrétions.
Ouais.
Comment ça se passe la cohabitation d'ailleurs entre photographe et caméraman? Parfois, c'est un peu compliqué, non?
Ouais, parfois, bon, dans d'une manière générale, on s'entend bien. On a notre collègue Jean-Michel Tibi là, qui est très présent. Et des fois, il est un peu dans notre champ parce qu'il aime bien travailler avec des très grands angulaires.
Ouais,
Mais
il est très très près de l'action, Jean-Michel.
voilà.
Il a
Mais comme
sorti un
il est,
bouquin d'ailleurs, il a sorti un bouquin là.
oui, il a sorti ses souvenirs. Mais comme il adore la photo et qu'il est très proche des photographes, en général, on l'appelle, on lui dit de se pousser, il nous laisse la place. Non, il fait très attention, il faut reconnaître. Mais beaucoup plus que certains autres. Mais en général, on profite souvent d'ailleurs des plateaux des télévisions qui réunissent les pilotes ou des ingénieurs, parce que les pilotes, on les voit de moins en moins. Et souvent, bah, on profite des points télé, des interviews organisées pour nous aussi faire des portraits des pilotes.
Est-ce que vous retenez un moment particulier? Est-ce qu'il y a un moment que vous attendez dans le week-end, au gré de vos déplacements ou des rencontres, qui vous permettent d'être un petit peu plus créatif ou de montrer des choses que... Là, le but, c'est vraiment la photo ou le point de vue que les autres, les collègues n'ont pas vu. Est-ce que vous retenez des choses que vous avez parfois saisies?
Moi, ce que j'aime bien faire, et puis d'autres aussi d'ailleurs, c'est un peu arpenter la pit lane ou le paddock tard le soir, par exemple, en espérant qu'un pilote ou qu'un Hamilton va rentrer dans le garage à 19 h alors qu'il n'y a plus personne, juste pour parler avec les mécaniciens ou pour jeter un coup d'œil sur sa voiture. Et ça arrive de moins en moins fréquemment, mais ça arrive quand même. Et moi, j'ai toujours été un peu à l'affût de ce genre d'image, et curieusement, c'était souvent les vrais champions qu'on retrouvait comme ça le soir
Tard
tard,
le soir.
avec
Schumacher,
Bouffier,
Vettel, des gens comme ça.
Schumacher, Vettel, ouais, Senna, à parler avec les mécaniciens, à étudier des détails, à regarder dans le cockpit le pédalier, enfin plein, se remettre dans la voiture éventuellement s'il fallait, et ça, bon, bah, c'était des photos qui sont pas prévus évidemment, donc c'est qui sont rares, et c'est toujours sympa quand on arrive à en faire une comme ça, quoi.
Je voyais, Stéphane avait noté notamment l'arrivée du halo, qui a dû être un vrai problème pour les photographes, parce que ça complique beaucoup la tâche. On sait que un des objectifs, c'est d'essayer d'avoir le regard du pilote. Avec le halo, ça devient encore plus compliqué.
Ce qui est même plus compliqué que ça, c'est quand sont arrivées les protections latérales au niveau des épaules qui ont
Le
relevé un petit
Hans,
peu, qui
ouais.
ont commencé à
Ouais.
cacher le casque. Et aujourd'hui, c'est impossible de faire une photo, d'avoir un point de vue avec le casque complet. Et souvent, on ne voit pas bien le casque du pilote dans sa voiture. Et je pense que ça doit être une frustration pour vous.
Ouais, ça c'est sûr que c'était. Bah, tous les photographes, on a été tous contre ce halo, mais bon, on est bien obligé d'admettre que ça a eu du bon. Et pour les photos, un autre détail, effectivement, on n'a plus le casque en entier, ça nous perturbe un peu au moment de la prise de vue en action, mais surtout c'est gênant par rapport à l'autofocus. Parce que maintenant, on travaille tous avec des gros téléobjectifs qui font la mise au point automatiquement, beaucoup plus rapidement que si on la faisait manuellement comme dans le passé, quand j'ai débuté. Et souvent, bah, l'autofocus va s'arrêter sur le halo et le casque ne va pas être parfaitement net. Donc ça, c'est un des problèmes techniques.
Les visières aussi qui se sont développées, j'imagine qu'à la fin des années 70, début des années 80, les visières, on voyait beaucoup plus au travers, justement, le
Ouais.
regard des pilotes.
C'est vrai.
Souvent, je me dis, en fait, sur les caméras embarquées, quand on voit le casque, ben, en fait, on ne sait même plus s'il y a un humain à l'intérieur.
C'est vrai. Il y a des pilotes comme Lewis Hamilton, par exemple, qui, même quand il est dans le garage, garde sa visière quasiment fermée. Alors, je ne sais pas si c'est pour sa concentration ou si c'est pour éviter justement les photos ou les photographes. Là où on a encore la chance de voir les yeux des pilotes, c'est pendant les Grands Prix nocturnes, où ils ont des visières vraiment transparentes. Et cela, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir avoir les yeux des pilotes en action, ça c'est sûr.
Mais par contre, ça doit être un enfer, je ne sais pas, mais ça pousse, ça révèle peut-être ces ambiances nocturnes, les meilleurs techniciens de la photographie, parce que c'est quand même extrêmement difficile d'avoir une photo nette. Forcément, l'objet Formule 1 va très très vite, avec très peu de lumière, ce n'est pas une bonne combinaison. Comment est-ce que vous avez ressenti cette arrivée? Alors après, quand on fait des photos 24 heures du Mans, on est un petit peu habitué, mais c'était encore quelque chose de différent en Formule 1.
Alors, oui, pour les Grands Prix nocturnes, on a eu la chance que les Grands Prix nocturnes débarquent alors que le numérique était déjà bien arrivé, bien implanté en photographie. Et bah, du coup, les photos de nuit ne posent plus aucun problème parce qu'on peut travailler facilement à des sensibilités très élevées de style 3200 ou 6400 ISO, ce qui était impossible à l'époque de l'argentique, puisque déjà, quand on arrivait à 800, c'était déjà, on avait un grain énorme et les photos n'étaient pas très bonnes. Et du coup, c'est presque plus du tout un problème. Et au contraire, on a des très bons rendus parce que les circuits et les pistes sont quand même très, très bien éclairés. Et on a un résultat qui est plutôt pas mal dans les Grands Prix de nuit.
Alors, vous avez couvert quasiment 40 ans
Ah bah oui.
de Grand Prix.
Ouais, même 40, 45 et même, je peux même dire 50, puisque justement, je viens de publier un petit livre sur les 50 ans de mon premier Grand Prix, puisque c'était à Silverstone cette année. Et je m'étais rendu en 73 à Silverstone en moto, mais alors que j'étais encore étudiant, j'étais à l'école de photo et j'étais loin d'imaginer que ça allait devenir ma spécialité.
Alors, est-ce que les photographes courent tous quittent leur poste en fait pendant le Grand Prix pour se ruer vers le podium à la fin? Ce qui fait que souvent, c'est assez difficile de trouver des photos des 5 ou 10 derniers tours parce que les gens sont partis.
Alors, ça, c'est exact, ça va m'amener sur une petite histoire, vous connaissez peut-être. Le meilleur exemple, c'était le Grand Prix de Dijon en 79, quand Jean-Pierre Jabouille allait gagner pour la première fois, et pour Renault aussi, avec le moteur turbo.
Et pendant ce
Et
temps-là, il y avait la bagarre pour la deuxième place
voilà.
qui lui a volé la vedette.
Voilà la bagarre entre Arnoux et Gilles Villeneuve pour la deuxième place, ça s'est passé dans les 3 derniers tours. Et tous les photographes, comme moi le premier, on attendait la victoire de Renault et de Jabouille, donc on était au pied du podium. Et j'ai un ami, Philippe Enzensberger, qui est décédé malheureusement, qui lui était un peu là en dilettante, on va dire. Il n'avait pas de contraintes, travaillait pour Autoplus, je crois, à l'époque. Et il était plus passionné, il venait là vraiment pour le plaisir, il avait la chance d'être accrédité. Et donc lui, il a fait quelques photos du duel Arnoux-Villeneuve et après il m'en a laissé une pour la diffuser moi-même parce que je n'avais pas. Lui, c'était pas trop son
Parce que
métier.
vous étiez en train de revenir au pied du podium, c'est ça
Là, j'y
l'idée.
étais déjà d'ailleurs, hein, parce qu'en
Ouais.
général, on revient 5 à 6 tours avant la fin. Ça dépend des circuits et de l'accès qu'on peut avoir. Mais par contre, moi, n'ayant pas toujours eu des impératifs par rapport à des magazines ou par rapport à une agence de presse, ça m'est arrivé de rester jusqu'au dernier tour dans un virage et de sacrifier le podium quelquefois si j'avais pas le temps de m'y rendre.
C'est quoi, vous avez un moment qui vous a particulièrement marqué? Alors, je ne cherche pas forcément un truc scabreux, un accident ou quelque chose comme ça, mais un moment qui vous a marqué dans votre carrière de photographe de Formule 1.
Ou un Grand Prix assez
Ouais.
fou, ou quelque chose
Ouais.
d'inhabituel. Alors
Vraiment
bon,
qui vous vient comme ça
du
à
Kyalami
l'idée.
82 où il y a les pilotes quittent le
Ah bah non,
circuit,
mais
on va les chercher dans
l'influence
un hôtel, je sais pas.
pas.
Mais bon,
Ouais,
il y
alors
a des
ça,
choses
là,
extraordinaires.
c'est les à côté, ça.
Exactement.
Effectivement, c'était un moment très différent, inattendu. puisque les pilotes étaient en grève. Donc, c'était du jamais vu et c'était un truc incroyable. Je me suis rendu à l'hôtel où ils étaient tous enfermés dans une immense chambre, un dortoir. Ils avaient fait un dortoir, en fait. Ils avaient fait rentrer des matelas. Ils dormaient tous ensemble. Et à un moment, je crois que c'était un pilote ou c'est Loda qui était un peu, qui s'occupait de tout ça et qui a laissé entrouvrir la porte pour que quelques photographes puissent faire des photos. Sinon, il n'y en aurait pas eu. Et sinon, je pensais à un autre moment. On parlait du podium, le Grand Prix de France 93 à Magny-Cours. Ben, j'avais décidé de ne pas aller au podium tout de suite et de rester dans l'épingle d'Adélaïde, au cas où, comme souvent d'ailleurs, dans les derniers tours, il se passe quelque chose. C'est là qu'il y a les dépassements qui arrivent, etc. Et donc, j'étais resté dans ce virage et pour le tour d'honneur, parce que dans ce cas-là, comme je sacrifie le podium. Du coup, j'attends le pilote qui va saluer le public. Et là, ce qui s'est passé, c'est que juste avant l'épingle d'Adélaïde, il y a un spectateur qui a enjambé les grillages du circuit avec un drapeau français et qui a tendu ce drapeau à Alain Prost. Et Alain Prost s'est arrêté, curieusement, pour saisir le drapeau et a terminé le tour d'honneur avec cet énorme drapeau tricolore. Et je crois que je peux me vanter d'avoir eu la meilleure photo de ce moment-là. Et d'ailleurs, Renault s'en est servi, l'a utilisé parce que c'était bon,
Ah oui.
après, pour illustrer le dernier titre, le quatrième titre d'Alain Prost avec Renault et Williams en Formule 1, bah, c'était la photo parfaite, quoi.
Est-ce qu'il y a
Donc,
des oui.
ouais.
Pardon. Est-ce qu'il y a des pilotes aujourd'hui qui sont plus faciles à travailler que d'autres? Est-ce qu'il y en a que vous appréciez? Les pilotes se sont rajeunis aussi, les comportements ont changé. On a affaire à des gens qui sont formés, qui ont des produits marketing, hein, je ne voulais pas prononcer le mot, mais c'est voilà, je ne trouve pas autre chose. Et est-ce que on a perdu en authenticité, pardon.
Oui, certainement. Alors, bon, moi, ça fait quand même 5-6 ans que je ne vais plus sur les Grands Prix d'une manière régulière. J'en suis seulement deux ou trois chaque année. On n'a plus aucun contact avec les pilotes. Alors, n'allant pas à tous les Grands Prix, c'est sûr que ça n'arrange pas les choses. Je pense que si j'allais à tous les Grands Prix, je pourrais quand même dire trois mots aux Français déjà, dans le paddock, comme c'était le cas. Quand j'y étais encore, il y a 5-6 ans, 7-8 ans. Mais sinon, on ne peut quasiment pas les arrêter. Souvent, ils se déplacent dans le paddock en trottinette justement pour ne pas être interpellés par les journalistes ou par les photographes. Donc, on est obligé de voler des photos, finalement,
Ouais.
ou d'aller dans les conférences de presse quand on est admis, parce que souvent, on n'est pas admis, justement parce que les attachés de presse ou les managers ne souhaitent pas avoir des photos de ces moments-là, à part là, les conférences officielles où là, on a le droit d'aller. Et on y va parce que c'est le seul moment où on peut ramener des photos, des portraits des pilotes, en fait.
Est-ce que on va bientôt vous libérer, Bernard. Est-ce que vous conseilleriez quand même à des jeunes, parce que je trouve qu'on est un petit peu un peu rabat-joie. Est-ce que vous
Oui.
conseilleriez quand même à des jeunes de se lancer dans ce métier, parce que c'est quand même une sacrée aventure, non?
Ah bah c'est formidable. Pour celui qui a envie et qui est passionné, il y aura toujours une place, c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est pas compter ses heures, ni ses jours, accepter d'être souvent en déplacement et travailler le week-end, ce qui n'est pas le cas de beaucoup, souvent,
Oui.
voilà,
Ben c'est
qui
pas
n'avaient
trop dans l'air du temps.
pas vu ce côté du métier. Mais il y a deux beaux exemples de l'agence DPPI, de jeunes photographes qui ont fait leur place, en fait, là récemment, de ces 6-7 dernières années. Et je sais pas, ils ont même pas 30 ans et ils se débrouillent très bien. Et voilà, ils travaillent avec cette agence qui est la seule agence en France, en fait,
Ouais,
spécialisée.
la plus connue, c'est clair.
Donc, c'est Florent Gouden et Antonin Vincent, pour les citer. Et ils ont vraiment réussi à innover dans la photographie de Formule 1, à avoir un nouveau regard. Et comme quoi, il y a encore de la place pour. Il n'y a pas des dizaines de places, mais il y en a quelques-unes.
Une
Ils
dernière
n'en arrivent
question.
pas. Oui.
Une dernière question. Ça vous arrive de voir des photos de Formule 1, évidemment, et de vous dire, waouh, celle-là, elle est belle. J'aurais bien aimé la faire.
Ah oui, ça m'arrive. Et justement, avec les deux photographes que je vous ai cités, Souvent, je fais waouh.
Ok, et
Je
eh
leur envoie
ben
un petit message pour les féliciter parce que c'est impressionnant. Et comme quoi, il peut y avoir un renouveau. Et malgré les contraintes de travail, il y a moyen de faire des nouvelles images différentes et d'innover, quoi.
magnifique. On va rappeler hein, que donc vous publiez là ces jours-ci un nouvel ouvrage chez Red Runner. Alors vous aviez déjà fait un ouvrage pour Michael Schumacher, un autre pour Jacques Lafitte, hein, pour Mario Andretti, et là c'est Ayrton Senna
C'est ça.
qui est passé. Vous faites quoi? Vous reprenez tous les plus beaux clichés que vous avez du Brésilien?
C'est ça. Alors, concernant Ayrton Senna en particulier, c'était d'autant plus compliqué que j'ai déjà participé à deux livres sur Ayrton Senna, un il y a 10 ans, un autre il y a 20 ans. À chaque fois, c'était les anniversaires. Donc là, j'ai encore fouillé dans mes archives, notamment dans des noirs et blancs que j'avais jamais trop exploités, pour retrouver des nouvelles photos un peu différentes. Et puis là, le livre, en plus, bon, il est imprimé en France. C'est un livre vraiment de qualité. Donc ça, même si les photos, on les a un peu déjà vues, certaines, on les présente différemment. Et voilà, c'est vraiment un bel ouvrage un peu de luxe, quoi.
Ouais, pour faire un cadeau aux fêtes de fin d'année à des
Parfait.
amateurs de Formule 1.
Parfait.
Merci beaucoup Bernard d'être venu nous visiter dans Les Fous du Volant. Juste pour dire à ceux qui ont écouté ce podcast qu'il y a aussi un élément vidéo qu'on enregistre avec vous où on va revenir sur quelques-uns de vos clichés. Là pour le coup c'est de la vidéo et bah, ça nous permet de voir. Là on a parlé de photos et bah, dans cette séquence vidéo on parle de photos avec vous. Merci beaucoup.
Voilà, merci à vous.
Merci Bernard.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.